Vous écoutez, on lit pour vous.
Même polarisés, les Québécois continuent à se parler. Un texte de Marco Belair Cirino, paru le 12 octobre 2024 dans Le Devoir. Les Québécois ont-ils peur de la chicane? Le cabinet conseil CROP a posé la question à 1000 personnes âgées de 18 ans et plus afin de nourrir la prochaine édition de l'État du Québec qui paraîtra chez Somme toute Le Devoir, qui aura pour thème « Sommes-nous une société émotive? » Selon le sondage, 47% des Québécois poursuivent une discussion lorsqu'un désaccord survient puisque, selon eux, le débat permet de renforcer leur esprit critique et de s'enrichir mutuellement. À l'opposé, 24% des Québécois coupent court à une discussion qui s'échauffe en changeant de sujet ou en quittant la pièce. On est capable encore de se parler, se réjouit la directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, INM, Mallory Flon, après avoir passé au peigne fin le rapport de l'étude Polarisation sociopolitique. Émotions, affects et sujets de société menés par CROP. Mais il y a quand même une proportion importante qui préfère fuir, ajoute-t-elle, y voyant une tendance à surveiller. Et 62% des Québécois disent avoir parfois ou souvent évité certains sujets de discussion avec un proche ou un collègue au cours de la dernière année pour s'épargner une situation difficile ou conflictuelle. Le conflit, la divergence d'opinion, est non seulement normal en démocratie, mais même assez sain et souhaitable. C'est en argumentant, en confrontant nos points de vue dans l'ouverture, dans le respect, qu'on peut trouver les meilleures solutions à nos enjeux sociétaux, tout en prenant en compte les différentes perspectives sur les besoins de la population, souligne Mme Flon, à un mois de la sortie de l'État du Québec 2025. Les Québécois ont l'épiderme plus sensible face aux chicanes qui dérapent, constate-t-on à la lecture du rapport de CROP. Pas moins de 90% de la population croit qu'on devait être beaucoup plus sévère contre la diffamation, l'incitation à la haine, la violence et la discrimination, quitte à restreindre un tant soit peu la liberté d'expression. Les répondants nous ont dit en chœur « Ça n'a pas d'allure, il faut que ça arrête », relate le président de CROP, Alain Giguère, en rappelant les démissions en cascade d'élus dues à la détérioration du climat politique dans leur coin de pays. Quels sont les moyens pour y parvenir? Le Québécois moyen ne mesure pas tous les impacts juridiques qui sont reliés à diverses solutions. Et les Québécois parlent-ils parfois à tort et à travers? En tout cas, près de 2 Québécois sur 5, 39%, avouent s'être prononcés dans les 12 derniers mois sur un sujet sans s'être informés en profondeur, préalablement, à commencer par les jeunes de 18 à 24 ans, 57%, et les personnes détenant un diplôme universitaire, 44%. Objet de polarisation. Les sujets de débat, voire de discorde, sont aujourd'hui nombreux et souvent complexes, fait remarquer Alain Giguère. Mais celui qui divise le plus les Québécois actuellement est celui de la diversité sexuelle et de genre. Précisément, 41% des Québécois militent pour la reconnaissance des préférences d'identité de genre et d'orientation de chacun. 47% des femmes contre 35% des hommes, 43% des francophones contre 34% des non-francophones. En revanche, 33% des Québécois croient qu'on est allé trop loin et qu'il faudrait revenir aux identités et aux rôles traditionnels entre les femmes et les hommes. 36% des hommes contre 30% des femmes, 47% des non-francophones contre 29% des francophones. Le patron de CROP voit là la naissance d'un courant néo-conservateur et masculiniste au Québec. Encore l'immigration. Une majorité de Québécois, 51%, appelle à un meilleur contrôle de l'immigration, et ce, y voyant plus une cause de la pénurie de logements, 63 % qu'une menace à l'identité québécoise, 35 % selon le coup de sonde effectué par CROP. La dynamique nationaliste ethnique frappe partout, y compris au Québec, indique Alain Giguère, qui se désole de voir la fibre humaniste de la nation québécoise s'effilocher. Les Québécois ne s'entendent pas non plus sur la sévérité des mesures à prendre pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement. La taille de l'État ou le rôle du Québec et du Canada sur la scène internationale. Mais de façon générale, il n'y a pas une si grande polarisation au Québec, observe le dirigeant de CROP. Est-ce que les gens de chaque côté du spectre sont capables de se parler, de partager des préoccupations, puis de trouver des voies de passage en termes de politique publique, d'action gouvernementale? Demande Mallory Flon de l'INM. C'est ça le grand défi de la démocratie. La raison pour laquelle la polarisation inquiète tant aux États-Unis en particulier, c'est parce qu'il y a des blocages, parce que les tenants de chaque extrémité d'un spectre n'arrivent plus à se parler. Puis ça peut aller jusqu'à donner un dysfonctionnement gouvernemental. Le Québec n'en est pas là. Le sondage CROP-INM a été mené en ligne du 16 au 23 mai dernier auprès de 1000 répondants d'un panel web âgé de 18 ans et plus. C'était, même polarisé, « Les Québécois continuent à se parler », un texte de Marco Belair-Cirino, paru le 12 octobre 2024 dans Le Devoir.
Quand le stress fait tomber les cheveux. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. Est-il vrai qu'on perd ses cheveux quand on perd du poids? Demande Camille Adam, une lectrice. Oui, cela peut arriver. Un phénomène appelé effluvium télogène. Une chute prématurée d'une partie importante des cheveux survient dans des épisodes de stress biologique importants. Cela peut inclure une perte de poids considérable, particulièrement si elle s'accompagne de carences nutritives. Les changements hormonaux, par exemple une fausse couche, la puberté ou encore la ménopause, peuvent causer l'effluvium télogène. Les maladies infectieuses aussi. L'effluvium télogène est probablement la forme la plus courante de perte de cheveux, explique Wilma Bergfeld, une dermatologue à la prestigieuse clinique de Cleveland, qui est responsable du volet sur ce sujet dans l'encyclopédie médicale UpToDate de l'éditeur néerlandais Wolters Kluwer. La perte de cheveux survient généralement de 2 à 4 mois après le stresseur, précise la docteure Bergfeld. Elle peut donc arriver quelques mois après une perte de poids importante. Le cycle des cheveux suit 3 phases. La pousse, pendant quelques années, une phase tampon, pendant quelques semaines, et enfin, la perte de cheveux, provoquée par leur détachement du cuir chevelu, parce que d'autres cheveux poussent en dessous. Cette dernière phase, qu'on appelle télogène, dure de 2 à 3 mois. Et habituellement, 15 % des cheveux sont dans cette phase. L'effluvium télogène provoque jusqu'à 20 à 30 % de perte de cheveux, selon la docteure Bergfeld. La chevelure est plus fine et on ramasse beaucoup de cheveux quand on se peigne. Et comme les cheveux poussent à un rythme allant d'un à 2 centimètres par mois, il faut plusieurs mois pour que le volume capillaire se redresse, dit-elle. Les cheveux sont parmi les cellules qui poussent le plus vite dans le corps humain. Retrouvez la cause. Quand une patiente consulte la docteure Bergfeld avec un problème du genre, la première étape, c'est voir si un événement stresseur est survenu au cours des 6 mois précédents. Ça peut être une réaction à un nouveau médicament ou une maladie sous-jacente. C'est important d'exclure ces causes. La COVID-19 a suscité beaucoup de cas d'effluvium télogène, observe la docteure Bergfeld. Si la perte de cheveux est liée à la perte de poids, il peut être utile de vérifier s'il y a des carences alimentaires, souligne la dermatologue de l'Ohio. La perte de cheveux héréditaires à partir de la vingtaine, souvent sur le sommet du crâne, est totalement indépendante de l'effluvium télogène et ne l'aggrave pas. Si les cheveux mettent plus que quelques mois à repousser, on peut utiliser le minoxidil, un anti-hypertenseur des années 1970, qui s'est révélé aider la pousse des cheveux, signale la docteure Bergfeld. Il est aussi connu sous le nom de Rogaine. Une version orale, à faible dose, a été introduite et semble sûre et plus facile à utiliser que la version topique, ajoute-t-elle. Marie-Ève Pinet, une dermatologue de Québec, à qui l'Association canadienne de dermatologie a renvoyé la presse, prescrit aussi le minoxidil contre l'effluvium télogène. Le minoxidil peut prendre au moins 6 mois avant de démontrer une réelle efficacité, prévient-elle. Il peut donc être utile de patienter avant de l'utiliser si la perte de cheveux est encore très récente. Aussi, beaucoup de gens craignent de perdre de nouveau leurs cheveux en arrêtant le traitement. Mais les cheveux recommencent seulement à tomber si la cause de la chute des cheveux est toujours active. En savoir plus, source, gène, Endotex. De 10 à 30 % proportion des Américaines d'origine européenne qui souffrent de calvitie partielle à 50 ans. De 30 à 50 % proportion des Américains d'origine européenne qui souffrent de calvitie partielle à 50 ans. C'était « Quand le stress fait tomber les cheveux ». Un texte de Mathieu Perrault, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.
Ceci n'est pas la fin du monde. Un texte de Paul Journet, paru le 13 octobre 2024 dans La Presse. Face à la crise climatique, on peut se sentir impuissant ou perdu. Notre chroniqueur propose de prendre un pas de recul. En s'appuyant sur une variété d'essais et de penseurs, il cherche à mieux identifier les sources du problème et à esquisser des pistes de solutions. Dans un souper de son alma mater, où elle reçoit un prix, Anna Ricci remarque l'agneau dans l'assiette de son voisin, son ancien enseignant. Il est produit localement, alors il a une faible empreinte carbone, lui répond-il. La chercheuse à l'Université Oxford et directrice de la recherche du site Our World in Data est découragée. Cet homme doit savoir que les étiquettes bio ou locales ont peu d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, GES. Si même lui ignore les faits, qui les connaît? Ricci rapporte l'anecdote dans Not the End of the World, essai publié en 2023. Elle s'attaque aux mythes et aux faussetés, et elle tente de renverser le fatalisme. Elle ne fait pas la morale et elle n'annonce pas l'apocalypse. La scientifique figure plutôt parmi les modérés et les optimistes. Son épiphanie est venue lors d'une conférence du scientifique suédois Hans Rosling, disparu en 2017. il soumettait un questionnaire à la foule. Même les experts se trompaient systématiquement. Ils sous-estimaient les bonnes nouvelles et exagéraient les mauvaises. Ritchie refuse de céder à l'alarmisme. « Non, nous ne faisons pas face à l'extinction. Nous ne sommes pas non plus la dernière génération. Selon elle, ce biais pessimiste est dangereux, car il nous fige dans l'inaction. » La recherche d'un modèle de société viable et durable ne concerne pas que l'environnement, rappelle-t-elle. L'objectif est à la fois de satisfaire nos besoins et de préserver les écosystèmes. Et pour l'état de la planète, l'autre exigence pour que notre mode de vie soit jugé durable, c'est plus compliqué. L'essai s'attarde à 7 indicateurs : la pollution de l'air, le changement climatique, la déforestation, la nourriture, la biodiversité, le plastique dans les océans et la surpêche. Fidèle à sa démarche, Mme Ritchie adore trouver les angles morts dans le débat public. Oui, le nucléaire coûte cher et génère des déchets. Mais il est moins dangereux qu'on ne le prétend. Il cause 0,03 mort par térawattheure, à quasi-égalité avec le solaire et l'éolien. Le gaz et le pétrole causent respectivement 93 fois et 600 fois plus de morts. On s'inquiète des événements spectaculaires en ignorant les drames quotidiens. Un exemple, la pollution de l'air. Cette tueuse silencieuse est responsable de 450 fois plus de morts que les catastrophes naturelles. Et elle est facile à arrêter. Il suffit de cesser de brûler du bois, du charbon et des combustibles fossiles. La Chine l'a fait. Entre 2013 et 2020, sa pollution atmosphérique a chuté de 40%. Du début à la fin de son livre, la scientifique reprend sa démonstration en trois étapes. La crise écologique est sérieuse, la solution est connue et le progrès passé montre que l'humanité peut se montrer à la hauteur. Elle manipule des données moyennes mondiales brutes pour tirer des conclusions catégoriques sur des enjeux complexes. Ce qu'elle gagne en clarté, elle le perd en finesse. Madame Ritchie en a particulièrement contre les statistiques zombies, ces énoncés chocs qui reviennent dans les médias sans que la source soit précisée. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu, lançait le président français Emmanuel Macron en 2019. En fait, cette forêt ne produit que de 6 à 9% de l'oxygène et elle en consomme la même proportion. Même si la déforestation s'est arrêtée dans plusieurs pays développés, à l'échelle mondiale, elle se poursuit. Le coupable n'est pas l'urbanisation, son impact est relativement faible. La faute revient plutôt à l'agriculture. Et c'est à ce sujet qu'elle est la plus convaincante. Son diagnostic est aussi limpide que son remède proposé. La menace dans notre assiette. Et si une partie de la solution de la crise écologique n'exigeait pas vraiment d'efforts, une légère modification de son régime, qui serait en plus bénéfique pour la santé? Madame Ritchie démontre l'impact énorme de notre alimentation sur la déforestation, la biodiversité et le climat. Surtout du bœuf et des produits laitiers. Le tiers du territoire habitable de la planète sert à ce bétail. Il est responsable de 41% de la déforestation, soit nettement plus que l'industrie forestière, 13%. l'agriculture. Elle est responsable du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elle occupe la moitié du territoire habitable. Production mondiale de céréales, 41% sert à nourrir les animaux, 11% va à des usages industriels comme les biocarburants. Au Canada, à peine 14% des céréales cultivées servent à nourrir des humains. De 2010 à 2020, au net, une superficie équivalente à la taille de l'Espagne a été rasée à cause de l'agriculture. Et ces pertes se trouvent désormais surtout dans les pays pauvres et dans les forêts tropicales qui abritent une riche biodiversité. Vous écoutez « Ceci n'est pas la fin du monde », un texte de Paul Journet, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. Madame Ricci, qui a fait son doctorat sur le marché alimentaire mondial, réhabilite certains produits, comme l'huile de palme. Par hectare, elle permet de récolter 4 fois plus de litres que l'huile de tournesol et 9 fois plus que l'huile d'olive. Elle remet en question l'utilité des aliments locaux et biologiques. Bien sûr, ils ont des avantages pour la saveur des aliments, les conditions de travail des fermiers et le bien-être animalier. Mais le bio n'est pas généralisable à l'échelle mondiale, car il réduit la productivité des récoltes et requiert plus de terres. Le fiasco du virage bio au Sri Lanka montre ce danger. Tout n'est pas négatif. Les fertilisants ont permis de doubler la production mondiale de nourriture et on n'en requiert pas davantage. De plus, l'expansion des terres agricoles ralentit, tout comme le rythme de la déforestation et de la croissance de la population. On produit aujourd'hui 2 fois plus d'aliments qu'elle n'en a besoin. Nous pourrions donc facilement subvenir aux besoins du 10% de l'humanité qui ne mange pas à sa faim. Les principales sources de ce gaspillage, les lacunes du transport et la réfrigération déficiente, ainsi que les parasites qui contaminent les récoltes. Pour freiner le réchauffement, un changement alimentaire s'impose. Plus de plantes, moins de viande rouge, car notre amour du hamburger au bœuf coûte cher. 97%, c'est la proportion de la nourriture utilisée pour alimenter les vaches qui est produite en pure perte pour les humains. Mais comment convaincre la population de changer ses habitudes? Ricci ne croit pas à la culpabilisation. Mieux vaut rendre le message positif. Par exemple, améliorer le goût des Veggie Burgers, proposer des vendredis sans viande ou inciter les gens à remplacer le bœuf par le poulet. À prendre soin en même temps de la planète et d'eux-mêmes. Climat, la course contre la montre. Le climat teste l'optimisme de Madame Ricci. Il est trop tard pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Même pour la cible de 2 degrés, ce sera très difficile, reconnaît-elle. La principale cause est connue, notre dépendance aux combustibles fossiles, qui dérègle le climat et accélère le rythme du déclin des espèces. Leur disparition est de 100 à 1000 fois plus rapide que la vitesse normale. Elle s'accroche toutefois à un espoir. Des pays réussissent à faire croître leur économie tout en réduisant leur GES. Et la technologie se développe vite. Par exemple, le coût de l'éolien et du solaire photovoltaïque a chuté respectivement de 3 fois et de 9 fois dans la dernière décennie. Madame Ricci omet toutefois une donnée essentielle. Cette baisse des GES est relative. l'essayiste cite les émissions par individu. En effet, elles ont légèrement diminué. Mais avec la croissance de la population, au net, les GES ont tout de même augmenté. Et c'est tout ce qui compte pour la planète. Dans la dernière décennie, seulement 11 pays ont réussi à faire diminuer de façon absolue leur GES. Et même pour ces cas d'exception, la baisse est trop lente. Avec la cadence actuelle, ces pays atteindraient la carboneutralité dans 220 ans. Pendant ce temps, 6 des 9 limites planétaires ont été franchies. Climat, biodiversité, cycle de l'azote et du phosphore, occupation des sols, eau douce, contaminants atmosphériques. Tous ne sont pas également responsables. En moins de 2 jours, l'Américain moyen émet autant de GES qu'un Tchadien en une année. Et c'est ce dernier qui souffre le plus du dérèglement des récoltes et des écosystèmes. Madame Ricci dénonce avec raison les querelles stériles et mesquines entre les écologistes